Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai
Bonjour
le
Julien.
plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lucile Boulanger. Bonjour.
Bonjour.
Je reçois l'occasion d'un disque absolument merveilleux, envoûtant. Excusez cet accueil brutal, Lucile Boulanger,
Ça va?
consacré à deux compositeurs contemporains, Bach et Abel, quoique Abel soit beaucoup plus ancré encore que Bach dans le XVIIIe siècle. Et donc un disque paru pour le label Alpha Classics, où jouez toute seule, Lucile Boulanger, ce qui suscite dès l'entrée un climat envoûtant. Donc ce disque succède à un autre disque, là où vous étiez très entouré, consacré à Forqueray, d'autres maîtres de la viole de gambe. Et l'idée de faire un disque en solo, alors là c'est une idée ancienne.
Oui, assez ancienne, qui, en fait, on va à chaque fois un petit peu plus loin, on se dénude, en quelque sorte. On passe du duo à quelque chose de plus soliste, accompagné avec la basse continue. Et puis, voilà, le répertoire solo, c'est dans le prolongement de tout ça. Aussi aidé par ce qu'on sait, des confinements, etc., qui m'a aussi offert un temps propice, pour ce travail-là.
Alors on est frappé d'emblée quand on écoute ce disque par une sorte de douceur du son. Alors je sais pas, c'est à la fois dû à vous et j'imagine un travail avec l'ingénieur du son lors de l'enregistrement puisque ça a été enregistré dans un cadre majestueux.
Oui, tout ça, c'est une alchimie toujours assez imprévisible entre l'interprète, l'état de son instrument à ce moment-là, l'acoustique, l'ambiance où on enregistre, et puis en effet, l'ingénieur du son. Là, j'ai eu la chance de continuer à enregistrer avec Aline Blondiau, qui est une grande, grande dame du son et une grande musicienne avec laquelle j'ai déjà beaucoup collaboré, donc on se connaît très bien. Aline est une amoureuse du son en général, mais aussi du son de la viole, y compris dans ce que ça a de très charnel. Donc elle a été d'extrêmement bons conseils. Et puis en effet, enregistrée dans le réfectoire de l'abbaye de Noirlac, c'était extrêmement inspirant. Et c'est en fait, particulièrement quand on joue seul, l'acoustique est un partenaire en fait. Un partenaire qui peut soit plomber, décourager, soit porter au contraire. Et finalement, on joue avec soi-même, on joue en relation avec ce que l'acoustique renvoie. Surtout pour de la musique polyphonique comme ça, c'est extrêmement important parce qu'on a besoin que certaines notes qu'on a jouées il y a parfois 3, 4 ou 10 secondes continuent à résonner pour qu'on s'appuie et qu'on continue à s'accompagner soi-même.
Alors vous confrontez ces deux compositeurs, Bach et Carl Friedrich Abel, dont les destins se sont un peu croisés, puisque Carl Friedrich Abel a lui-même connu à Londres Jean-Chrétien Bach, j'espère que je ne me trompe pas dans le prénom,
Voilà, non, non,
un
c'est
des
ça.
fils de Bach, donc il y a vraiment des liens entre les deux.
Oui, il y a des liens très forts entre les deux familles, en fait, pour voir de manière plus large. Ces deux arbres généalogiques qui se sont entremêlés sur plusieurs générations. Donc Bach, Jean-Sébastien, était très ami et collègue de Christian Ferdinand Abel, qui était le papa de Carl Friedrich, qui était aussi musicien, aussi violiste, violoniste et probablement violoncelliste. Donc on peut se demander si les suites pour violoncelle que Bach a écrite justement dans la période où il était collègue de Christian Ferdinand, n'aurait pas été écrite un petit peu en pensant à lui. Donc les deux hommes étaient très amis. Bach quitte Köthen en 1723, un tout petit peu avant la naissance de Carl Friedrich, dont il sera quand même le parrain, ce qui prouve quand même la nature des liens qui unissaient les deux familles. Le jeune Carl Friedrich Abel ira très probablement prendre des cours à Leipzig auprès de Bach. Peut-être pas comme élève officiel, mais en tout cas, on a plusieurs témoignages d'époque qui le décrivent comme un élève, quelqu'un qui suit le grand maître. Et puis, en effet, à la fin des années 50, Carl Friedrich ira, comme beaucoup d'Allemands, s'installer en Angleterre, à Londres, où il sera interprète et également, je pourrais dire, businessman. Il a monté une société de concerts à souscription, de concerts plus ou moins publics, ce qui nous paraît complètement évident aujourd'hui, mais qui en fait n'était pas si courant à l'époque. Et il s'est associé avec un jeune fils Bach, Jean Chrétien, en effet.
Alors, quand on voit sur la pochette de ce disque les noms de Bach et Abel, on se dit ben, c'est évident. Et puis en fait, vous le rappelez dans le texte qui accompagne ce disque, Bach, lui, à l'exclusion des trois sonates pour viol de gambe et clavier, je crois que c'est clavier, c'est pas clavecin qui est mentionné, à part ces trois sonates, il n'a rien composé pour la viol de gambe, si ce n'est dans ses messes ou ses cantates.
Oui, ce qui n'est pas négligeable quand même, il offre toujours des solos très très spéciaux à la viole, c'est des moments choisis, très très forts au niveau de la tension dramatique des œuvres, que ce soit dans les cantates, souvent les cantates de jeunesse, mais pas seulement, et puis dans la Passion selon Saint Jean et la Passion selon Saint Matthieu, la viole intervient toujours à des moments vraiment
Mais c'est
choisis, très
sublime
très
le rôle qui lui est
forts.
dévolu dans ces
Exactement,
deux
ouais,
passions.
y a toute une rhétorique, un imaginaire lié à l'instrument qui est déjà un peu archaïque. Y a cette rhétorique du passé, souvent de la mort aussi, probablement de la vulnérabilité, parce que voilà, on vient d'énormes ensembles et d'un coup on a un instrument seul qui n'est pas dans une toute puissance. Voilà, y a une beauté de la fragilité. Donc je crois que c'est un instrument que Bach connaît très bien, notamment dans la Saint-Matthieu, il écrit, enfin en fait il transcrit. Parce que l'air est à l'origine pour luth, mais il l'a retranscrit pour basse de viol à sept cordes, probablement pour Carl Friedrich Abel, parce que les dates coïncident sur le moment où Abel était à Leipzig et le moment où cette version de la Saint-Matthieu a été donnée. Et on voit que Bach connaît très bien l'instrument et qu'il en comprend les possibilités harmoniques, parce que c'est un air qui est plein d'accords, très fourni. C'est d'ailleurs un air duquel je suis pas mal parti pour essayer d'imaginer comment Bach aurait pu écrire pour la viole seule. Donc en fait, voilà, le point de départ de ces transcriptions, c'est oui, Bach écrit pour la viole, il connaît très bien l'instrument. Pourquoi n'a-t-il pas écrit pour l'instrument seul, comme il l'a fait pour le violon, le violoncelle, la flûte, le luth, qui est lui aussi un instrument qu'on pourrait qualifier déjà d'un petit peu archaïque à l'époque. Voilà, donc j'ai croisé un petit peu tout ça pour essayer d'imaginer comment il l'aurait fait si l'occasion s'était présentée. C'est probablement une question d'occasion. Peut-être comment aussi Carl Friedrich se serait lui-même approprié la musique de Bach quand elle lui est tombée entre les mains. Donc voilà, je pensais aussi beaucoup à Carl Friedrich quand j'ai fait ces transcriptions-là.
Alors, si je pouvais retenir une phrase, c'est cette beauté de la fragilité, Lucile Boulanger. C'est vrai que ça me fait penser que c'est une des raisons pour lesquelles ce disque est tellement admirable et remplit tellement de joie, parce qu'on se retrouve dans un univers où on est des musiques, on quitte un ascenseur, on se retrouve dans un café, on est accablé de musique tout le temps. Et là, on se retrouve chez soi avec ce disque, avec cette beauté, ou si on vous écoute au concert, avec cette beauté de la fragilité, comme vous dites, c'est peut-être ça qui fait frissonner, en fait. C'est qu'on se retrouve effectivement devant un instrument seul. Avec cette apparence de fragilité, mais avec ces musiques tellement admirablement construites.
Oui, absolument, et probablement quand même assez destiné à un cadre domestique, quelque chose de l'intime, du privé, et où finalement je me réjouis en un sens de vivre à notre époque et où il y a encore des disques et encore des gens pour en écouter à la maison, parce que finalement c'est là, je trouve, que cette musique se déploie encore le mieux, ou bien des concerts, mais des concerts avec une ambiance un peu salon. Mais le côté informel, impersonnel du concert où on ne sait pas pour qui on joue, dans une grande salle où on est obligé de faire un effort de projection quand même, il y a une beauté, mais il y a aussi des choses qui se dénaturent de ce répertoire-là. Donc je trouve cette musique prend tout son sens au disque.
Lucile Boulanger, d'ailleurs, votre disque, vous l'introduisez par des œuvres de Bach, des transcriptions d'œuvres pour clavecin, et puis il y a des transcriptions d'œuvres pour violoncelle, de violon. Comment vous avez choisi justement de transcrire toutes ces œuvres et l'ordre dans lequel vous les interprétez sur ce disque? C'était l'ordre initial ou c'est après en réécoutant les bandes que vous avez choisi un ordre spécifique?
Oui, c'est une bonne question. Il y a des choses qui étaient claires dès le départ, c'est-à-dire qu'on a quand même le cadre de la suite de danse ou le cadre de la sonate qui impose une succession de mouvements dans un ordre quand même assez précis. Mais en effet, il y a des choses qui sont restées à décider jusqu'à la toute fin, en fait, jusqu'au jour de livraison du master. J'ai encore changé des ordres. Mais en effet, il y avait cette idée de reconstituer une grande suite de danse, donc avec le critère qu'il faut une tonalité commune, il faut aussi des choses stylistiques un peu communes, il ne faut pas que ce soit trop disparate. Mais j'ai utilisé la technique de la parodie ou du pastiche, qui était déjà très chère à Bach, qui est de réutiliser des choses qui existent précédemment, des pages qu'on a déjà composées, des idées qu'on a eues dans d'autres contextes, pour leur donner une nouvelle vie, pour les recycler et recréer un nouveau cycle qui a sa cohérence et sa logique. Donc, les deux critères principaux pour les pièces, j'ai lu beaucoup, beaucoup de musique, j'ai essayé de transcrire à vue des choses, parce que parfois, la transcription demande des semaines de travail, donc c'est difficile de savoir si une pièce vaut la peine ou pas. Et les deux critères étaient quand même que je voulais montrer une filiation entre Bach et Abel, donc j'ai choisi des pièces de Bach qui parfois étaient déjà dans un style un peu tardif, un peu galant, on pourrait dire. Donc cette suite en ré majeur avec beaucoup d'œuvres de la dernière suite pour violoncelle, je trouve qu'elle ressemble beaucoup au style de Abel dans les tournures harmoniques, aussi dans un côté très très orné, c'est-à-dire qu'on a des grands rendez-vous harmoniques comme ça, et puis en fait entre il y a des embellissements, enfin des fioritures qui sont à la fois importantes et pas importantes, des décorations. Donc ça m'a beaucoup fait penser à Abel. Donc voilà, essayer de trouver des pièces qui quand même parlent les unes aux autres. Et puis l'autre critère était de privilégier des pièces que Bach a déjà transcrites lui-même, donc des choses où j'avais des pièces sur lesquelles j'avais au moins deux versions de la main de Bach. Parfois, on ne sait pas dans quel ordre d'ailleurs
il a procédé. Clavecin et violon.
Par exemple, clavecin et violon. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que on dépasse simplement la tentative d'accéder à la vérité en ayant le bon instrument exactement, mais au contraire, essayer de dégager l'essence d'une pièce. Donc, c'est quoi l'essence d'une pièce ? Qu'est-ce qui reste entre une version pour violon qui a trois fois moins de notes et une version pour clavecin qui est beaucoup plus fournie, où il y a beaucoup plus d'ornements, où les accords sont remplis. Finalement, c'est la même musique, mais c'est pas la même musique. Donc essayez comme ça de toucher au cœur d'une pièce et voir ce qu'on peut changer et qui ne change pas l'essence de la pièce et quand est-ce qu'on touche à quelque chose à l'intégrité de la pièce. Voilà. Donc trouver une troisième version pour mon instrument, c'était particulièrement intéressant quand on prenait d'un côté le violon qui est aussi un instrument à cordes frottées, et de l'autre, le clavecin, qui est un instrument plus harmonique. Parce que la viole, on pourrait dire, se situe un peu entre les deux.
Il y a quelque chose de mystérieux chez Bach. C'est-à-dire qu'on peut écouter n'importe quelle transcription de Bach, même si on va dans le métro et qu'on écoute un accordéoniste jouer du Bach, on va ressentir une joie. Mais si on écoutait le même qui joue du Chopin, on trouverait ça d'un mauvais goût. Il y a quelque chose chez Bach qui résiste.
C'est vrai. Oui, je me souviens, mon dernier professeur, Christophe Coin, heureusement, c'est pas à moi qu'il s'adressait, mais il avait dit à un élève, de toute façon, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous ne parviendrez pas à l'abîmer, cette musique.
Et... Exactement, il y a une force chez ce compositeur, mais qui est très rare, en fait. Il y a très peu de compositeurs tels que Bach. Mais bon, vous avez choisi un instrument qui est contemporain de Bach, donc on n'est pas dans la même configuration, mais il y a quand même quelque chose de mystérieux.
Oui, absolument. Oui, on peut en parler. On en parle d'ailleurs depuis tellement d'années en long et en large, mais quelque chose qui est difficile à saisir dans ce qui fait la magie et la spécificité. Parce que finalement, tout ce qu'on peut dire sur le contrepoint, l'harmonie, le sens du rythme, la mélodie, etc., on peut aussi le dire de beaucoup d'autres compositeurs. Mais en effet, c'est intéressant que vous mentionniez que la viole est quand même contemporaine de Bach, parce que mon idée n'était pas de faire simplement de la transcription caprice, c'est-à-dire de me dire « Ah, oh, j'aime bien cette pièce, j'ai envie de la jouer à l'harmonica », mais quand même d'avoir un certain sérieux et une forme d'historicité dans la pratique de la transcription. Voilà, être finalement dans le prolongement de mon travail de baroqueuse, même si c'est pas, encore une fois, en essayant de trouver exactement le bon instrument sur lequel Bach aurait composé telle pièce. Voilà, c'est une recherche de vérité autrement que par le premier degré. Mais en effet, essayer de comprendre une pratique de l'intérieur en la pratiquant soi-même.
Oui, mais alors peut-être qu'au risque de m'égarer, on va pas vous reprocher justement, vous qui pratiquez cet instrument et qui faites un constant retour aux sources, j'imagine écumer les bibliothèques à la recherche d'une authenticité, puis vous parliez de Christophe Coin ou d'autres qui ont été vos maîtres justement, qui sont à la recherche de cette authenticité, on va pas vous reprocher justement de vous éloigner de ça pour transcrire la viole de gambe, alors que vous avez déjà un répertoire immense pour cet instrument.
Oui, je crois que l'un n'empêche pas l'autre et j'ai eu la chance de pouvoir aussi chez Alpha d'ailleurs dans les années précédentes faire aussi des disques avec du répertoire très audacieux, absolument inconnu, parfois même anonyme, donc relativement invendable, et c'est une immense joie d'enregistrer des inédits. Voilà aussi un disque sur la musique encore plus tardive pour viol et pianoforte avec une sonate de Graun qui probablement n'avait jamais été enregistrée. Donc je crois que l'un n'empêche pas l'autre, et l'idée de ce disque était de faire aussi profiter du passeport Bach pour faire connaître Abel, qui pour le coup bon, est très connu de nous autres violistes et a déjà été enregistré, mais l'introduire un peu davantage auprès du grand public pour défendre voilà, cette part quand même plus, plus dans l'ombre de notre répertoire.
Alors, grand public dont je fais partie, puisque pour moi c'est une grande découverte, je dois vous avouer, c'est une musique absolument merveilleuse, qui pâlit pas, d'ailleurs on n'écoute pas Bach puis Abel en alternance en se disant il y en a d'un côté un grand génie et de l'autre un petit maître, on peut les mettre sur ce plan,
c'était le défi,
sur le même plan.
Ouais.
Il y a quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, vous terminez la première partie consacrée à Bach par une gigue d'après un allegro de Abel pour faire une sorte de transition.
Oui, c'est un petit coup de folie. je voulais terminer la suite en ré majeur, pas forcément avec une gigue de Bach, mais la gigue de la sixième suite me faisait beaucoup penser à une pièce de Abel qui était en la, que j'ai mise en ré et que j'ai dû quand même un petit peu étoffer harmoniquement pour qu'elle fasse le poids par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Donc ça, c'était, voilà, c'était une petite excentricité, mais c'était intéressant aussi de faire le chemin inverse, de voir comment on peut densifier une pièce légère en lui donnant plus de consistance, un peu la manière dont Bach aurait corrigé aurait pu corriger une pièce de Abel en lui disant bon là tu t'es quand même tu pourrais te fouler un petit peu davantage, regarde tu peux faire ça, là tu peux mettre une septième, tu peux mettre un retard quand même, ça va être plus intéressant.
Et alors ces œuvres de Abel qui sont, font partie du répertoire essentiel des joueurs de viol de gambe, c'est une musique qui est extraordinairement bien écrite pour votre instrument, c'est le Liszt de la viol de gambe ou alors c'est, l'analogie est totalement aberrante?
Non, 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 c'est une bonne analogie, c'est peut-être moins difficile quand même que Liszt. Si on devait trouver un Liszt de la viol, je dirais quand même plutôt Forqueray, aussi pour la densité du langage, le côté vraiment où on pousse la technique à ses limites. Abel, c'est parfois difficile et virtuose, mais c'est pas non plus, c'est jamais injouable. Et en effet, c'est complètement écrit pour l'instrument et presque écrit sur l'instrument. C'est pas une abstraction comme peut l'être parfois la musique de Bach, où c'est pour ça aussi que finalement, elle n'est pas dénaturée, quel que soit l'instrument sur lequel on la joue, parfois parce qu'elle a été pensée en dehors de l'instrument. C'est une pensée en soi. Là, on sent vraiment que c'est des compositions sur l'instrument, que l'instrument inspire en fait, la musique. Donc ça tombe toujours très bien sous les doigts. Et quand il y a quelque chose d'un tout petit peu difficile, eh ben, ça s'entend, c'est gratifiant. Ce qui est complètement le contraire chez Bach, c'est-à-dire, voilà, parfois, nous, on doit beaucoup travailler pour quelque chose qui doit avoir l'air extrêmement simple et fluide et qui n'est pas démonstratif.
Lucile Boulanger, je parlais du caractère envoûtant de cet enregistrement. Il est dû à votre jeu, à beaucoup de choses, principalement aux œuvres et à vous, mais aussi à l'instrument, qui est le même instrument qu'il y avait sur votre disque consacré à Forqueray, si je ne me trompe.
Oui, absolument.
Qui est une reproduction, en fait, d'une viole de gambe, une reproduction de 2006 d'un modèle de 1699, donc contemporain de Bach et de Abel.
Oui, absolument. Alors pour le disque précédent, pour Forqueray, j'ai beaucoup réfléchi sur l'instrument que j'allais prendre. J'aurais pu vraiment prendre un instrument français. Mais il y avait aussi de la musique italienne dans ce disque, donc qui demandait quand même des transcriptions pour violon, qui demandait quelque chose de très dynamique, ce que ma viol avait. Et comme j'ai joué dans un diapason bas pour la musique française, donc autour de 400, mon instrument se détend un peu et a, disons, gagne des caractéristiques de l'esthétique française sans en avoir le risque de mollesse. Donc voilà, mais pour ce disque Bach Abel, ma viol était vraiment l'instrument rêvé. Bach a probablement rencontré Tilke, qui est donc le luthier qui a été copié. Et puis Abel, vers la fin de sa vie, a probablement, là encore, c'est-à-dire on n'est pas sûr, mais c'est très très probable, fait l'acquisition d'une viol de Tilke, du coup qui n'avait pas été faite pour lui parce que c'était beaucoup plus tard. Mais voilà, on sait qu'il y a un instrument qui était en vente à Hambourg exactement quand Abel est rentré en Allemagne, et cet instrument après s'est retrouvé dans les mains d'amis et élèves de Abel plus tard en Angleterre. Donc Abel aurait très probablement été la personne qui a acheté l'instrument en Allemagne et l'a rapporté en Angleterre. Et c'est un instrument à la fois très typé allemand, c'est-à-dire il y a une grande clarté d'élocution, et en même temps, ça n'est pas une 6 cordes, c'est une 7 cordes. Donc c'est un instrument sur lequel on peut jouer, y compris le répertoire français.
Mais alors justement, excusez cette question iconoclaste, c'est que, comme pour les clavecinistes, vous choisissez des instruments en fonction du répertoire que vous allez interpréter, ou c'est quand même beaucoup moins large comme, comme choix Parce que là, vous disiez que pour Forqueray, vous aviez pris la même viole, qui n'était pas forcément exclusivement consacrée à ce répertoire
voilà,
français.
Voilà, oui, mais... avec beaucoup d'hésitation. Oui, on a, la viole, c'est absolument jamais standardisé, c'est ce qui en fait toute sa richesse. Donc on a énormément d'esthétiques suivant les pays, les écoles et les époques. Donc dans l'idéal, c'est quand même formidable d'avoir autant d'instruments que de répertoires. On ne peut pas toujours les avoir à la maison, donc heureusement le monde de la viole est encore très familial et on se prête, on mutualise aussi beaucoup d'instruments. Après, il y a quelque chose de très personnel quand même sur un instrument, donc se risquer à enregistrer du répertoire soliste sur un instrument qu'on a seulement depuis un mois ou qu'on nous prête, c'est un challenge. Parfois ça vaut vraiment le coup, parfois moins. Mais en effet, si demain je vais enregistrer des diminutions italiennes 17e, je vais quand même pas prendre Mathilde.
Alors on parlait hors micro de musique contemporaine, parce que notamment vous avez joué du Philippe Hersant, vous allez jouer à Radio France le 27 mars prochain des œuvres baroques et puis des œuvres contemporaines. Comment vous suscitez, vous et d'autres, le répertoire pour viol? Comment ça se passe?
Absolument, oui, l'instrument intéresse de plus en plus les jeunes compositeurs. Ça fait déjà pas mal d'années, mais là, il y a quelque chose vraiment qui explose. Voilà, des compositeurs d'aujourd'hui qui sont aussi en recherche d'originalité, de trouver quelque chose de rare, de nouveau. Et finalement, cet instrument ancien est aussi une bonne voie pour la nouveauté. Tout le monde y trouve son compte parce que nous, de notre côté, les violistes, avoir sans arrêt des nouvelles pièces écrites pour notre instrument nous aide à prouver que l'instrument est vraiment vivant. Qu'il est vraiment de retour et que c'est pas simplement une mode, on sort du musée, de la reconstitution, des concerts en robe d'époque, etc. On a un vrai instrument qui certes a eu une éclipse, mais qui est là, comme le piano est là, comme toute autre sorte d'instruments sont là aussi, et qu'on peut écrire des choses nouvelles. C'est la comparaison avec la langue, en fait, entre une langue morte et une langue vivante, et le fait d'avoir des compositeurs d'aujourd'hui qui écrivent pour l'instrument nous fait de fait basculer dans une langue vivante.
C'est ce qui s'est passé avec le clavecin, à compter de Manuel de Falla ou
absolument,
d'autres compositeurs, pour qu'on se retrouve avec des œuvres de Betsy Jolas ou d'autres qui prennent cet instrument qu'on n'écoutait plus au 19e siècle.
Oui, oui, oui. Alors pour le clavecin, c'est intéressant parce que il y a des premières œuvres qui ont été réécrites, mais pour ce qu'on pensait être le clavecin, pour ce qu'on imaginait être le clavecin, c'est-à-dire un clavecin pléiel, qui est en fait un nouvel instrument. Enfin, c'est pas vraiment un clavecin, donc ça c'est aussi très intéressant. Pour la viole, on n'a pas tellement eu ça. Ça a pris du temps, mais une fois que les compositeurs se sont intéressés à l'instrument, ça ressemblait quand même à une viole comme au 17e ou au 18e.
Alors ce disque Bach Abel, qui est édité par Alpha Classique, donc vous confrontez à chaque fois des cycles d'œuvres de Abel, et on disait vous avez reconstitué en quelque sorte une suite en ré majeur de Bach et puis une sonate en la mineur qui termine ce disque. Après des solos de Abel, vous les avez puisés dans quelles œuvres, alors tous ces solos
Alors la plupart des pièces solos qui nous restent de Abel viennent d'un manuscrit Drexel, qui est très intéressant, qui est très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des ratures, il y a des pièces complètes, mais qui n'ont pas de titre, la plupart n'ont pas de titre, elles ne sont pas agencées dans un ordre particulier, autre que vaguement les tonalités. Et puis il y a même des bouts, il y a des bribes, il y a des phrases, il y a des choses qui pourraient être par exemple des cadences pour des concertos. Enfin, donc ça fait quand même plutôt penser à un cahier de notes qu'à quelque chose qui était prêt à être imprimé, ou voilà, on sent qu'il a quand même jamais été vraiment question d'éditer ce manuscrit-là. Et donc c'est extrêmement précieux parce que ça nous donne un accès quasi personnel à la pensée du compositeur. Mais en effet, quand on les joue en concert ou en disque, il faut trouver un ordre, il faut parfois trouver un titre aussi à ces pièces, un mouvement. Parfois c'est assez clair, parfois ça l'est pas. Parfois il y a des trois temps qui pourraient être quelque chose d'assez lent comme une sarabande ou bien un petit menuet léger parce que les deux pourraient fonctionner. Donc ça oblige là aussi à être très actif en tant qu'interprète et à proposer en fait quelque chose, à pas être dans... Enfin, la neutralité n'est pas possible. Il faut faire un choix, il faut se mouiller, si je peux dire.
Alors, ce qui est très étonnant quand même, quand on voit les dates de naissance et de mort de Abel, c'est-à-dire 1723-1787, c'est quasiment un contemporain de Joseph Haydn. Et il a composé des quatuors comme Haydn, des concertos
Absolument,
pour
ouais.
piano comme Haydn. Et on ne s'attend pas à ça d'un compositeur qui a tant composé pour la viole.
Oui, c'est ce qui rend le personnage, c'est ce qui rend le personnage complètement fascinant. C'est ce côté complètement charnière entre plusieurs périodes, avec parfois un mélange des genres. Donc en effet, c'est l'époque de Haydn. Il a aussi rencontré le jeune Mozart quand il était en Angleterre. Mozart a copié notamment une symphonie de Abel, qu'on a longtemps pensé être de Mozart, la troisième symphonie, qui en fait est une symphonie de Carl Friedrich Abel, complètement classique. Donc il y a ce côté tourné vers l'ancien temps, le baroque, comme on le dirait aujourd'hui, avec la viole, avec l'héritage de Bach. Il y a quelque chose de complètement classique, même galant, c'est un style assez léger, assez divertissant pour les concerts publics. Et il y a déjà quelque chose de très romantique, de ce qu'on appelle le style sensible, très très lié à des mouvements littéraires aussi. Stern, on disait de Abel qu'il était le Stern de la musique. Donc on est vraiment dans l'idée que l'instrumentiste parle aussi de manière très personnelle avec son instrument, qui va susciter des émotions fortes, beaucoup de sensibilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, presque la facette la plus romantique de Abel, dans ce côté très tourmenté, très, très personnel, eh ben, va s'exprimer sur un instrument ancien, un instrument baroque. Donc disons qu'il est classique dans la vie de tous les jours, côté scène, pour gagner sa vie, les symphonies, les quatuors, la musique de son temps. Et en privé, il y a cette espèce de mélange fascinant entre quelque chose d'ancien, quelque chose d'allemand aussi, qui lui rappelle ses racines, et quelque chose de complètement moderne, et voilà, moi qui me fait penser beaucoup à du romantisme.
Lucile Boulanger, vous faites partie de cette génération qui est venue bien après la redécouverte de l'instrument, comme tous ces clavecinistes qui sont venus après Wanda Landowska, vous êtes venue après les Jordi Savall, bien après, etc. Donc il y a eu toute cette révolution en quelque sorte ancrée dans le passé, et vous êtes née bien après. Et comment ça s'est passé justement, vous, votre amour de la viole? Parce qu'il y a eu toute cette redécouverte, et puis il y a eu ce film dont tout le monde doit vous parler tout le temps, tous les matins du monde, et dont je ne peux m'empêcher de parler non plus. Vous êtes né bien après, donc comment vous en êtes venu à cet instrument?
Alors moi je dirais que je suis extrêmement privilégiée et sur différents aspects, je pourrais dire que je suis une héritière. Parce que je venais d'un milieu où on écoutait beaucoup de musique ancienne, mon père était musicien aussi dans la musique ancienne, ma mère comédienne très mélomane. Il y avait France Musique à la maison 24 heures sur 24. Donc en fait, j'ai été entourée par cette musique depuis ma vie intra-utérine. Donc il y a eu quelque chose d'extrêmement. J'ai été baignée là-dedans. J'ai vu des viols vraiment toute ma vie. Et puis à 4 ans, il y a eu un concert qui a dû particulièrement me marquer, ou en tout cas une interprète à la viole qui m'a beaucoup marquée, qui était Christine Plubeau, qui est devenue mon professeur. Après, pendant les 10 premières années de mes études. Donc voilà, ça a été un coup de foudre, ça a été vraiment un choix de ma part. Personne ne me l'a imposé, mais c'était un choix relativement facile parce que j'avais sur la table tout un tas de choses à disposition et j'avais la chance de savoir que l'instrument existait. En fait, ça commence par là. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'enfants qui vont pas faire de la viole simplement parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc c'est facile d'avoir un coup de cœur quand les choses sont à portée de main. Et une héritière aussi parce que en effet, il y a tout un travail qui avait déjà été fait et on a pu m'apprendre l'instrument comme on l'apprend à un enfant, c'est-à-dire avec quelque chose de beaucoup moins intellectuel que ce que les pionniers ont dû faire. J'ai pu avoir un apprentissage qui était beaucoup basé sur l'écoute, où on me jouait des choses. voilà, je reproduisais, je me posais assez peu de questions. Un apprentissage aussi par le corps, avec beaucoup de mimétisme, beaucoup d'instinct et de plus de naturel. Alors que le mérite qu'ont eu les pionniers, c'est qu'il fallait tout reconstruire sans avoir de modèle défini en tête, sans avoir de gens vraiment à imiter.
Donc, il y avait une technique à reconstruire aussi.
Absolument, c'était un réapprentissage ex nihilo. Avec beaucoup de courage, j'y pense très souvent, enfin, sur la notion du beau par exemple, c'est-à-dire que arriver à savoir si la chose était moche parce qu'on la maîtrisait pas encore bien et qu'on allait s'améliorer, ou est-ce que en fait elle était pas moche, c'est simplement qu'il fallait assumer et changer, et que petit à petit le goût allait changer, qu'il fallait s'habituer à une autre esthétique. Pareil avec les tempéraments, avec l'accord, pour moi tout ça était assez naturel en fait, entendre du mésotonique, c'est-à-dire des tempéraments très inégaux, ça ne me faisait pas sauter au plafond comme ça pouvait faire sauter au plafond après-guerre. Donc pour ma génération, à la fois on est très extrêmement reconnaissant et privilégié, et en même temps on peut être aussi un petit peu perdu sur quelle est notre mission, quel est notre rôle, comment nous aussi on fait notre part pour continuer dans cette lancée, parce qu'il y a encore beaucoup de musique à redécouvrir, ou bien qui est déjà redécouverte, mais qu'il faut enregistrer, qu'il faut produire en concert, et donc sur laquelle il faut convaincre, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la belle musique, encore faut-il que les gens viennent l'écouter. Donc quand on est nous-mêmes inconnus et qu'on va faire du répertoire inconnu, en fait, il y a des gens que ça intéresse, mais ils ne vont même pas savoir où on est. Et voilà, donc il y a toute cette difficulté aussi. Tristement commercial, on est très nombreux, donc il y a la question de devoir se démarquer, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile d'être sincère et authentique, je trouve, de garder une intégrité. Donc voilà, on construit un peu tous nos parcours comme on peut, comme on croit, en essayant de faire honneur à cet héritage qu'on a eu la chance de recevoir.
Et alors, où est la poule, où est l'œuf ? C'était l'instrument lui-même ou tout le répertoire que vous aviez entendu
et... Alors là, il faut la machine à remonter dans le temps et demander, oui, à la petite fille de 4 ans.
On ne pourra pas savoir.
Je crois que c'était un tout. Il y avait évidemment cette femme qui jouait, il y avait la musique. Je crois que c'était la chapelle royale de Versailles. Donc il y avait tout
l'environnement
comme ça, oui. Complètement enivrant. Il y avait une viole qui probablement était très décorée. Voilà, je pense que la petite fille que j'étais devait quand même être aussi très sensible aux paillettes.
Et alors donc, c'est vrai que vous parliez de mettre en valeur des compositeurs restés dans l'ombre. Je ne parle pas pour les joueurs de viol de gamme, mais pour le grand public, de mettre en valeur Abel en le mettant aux côtés de Bach aussi, c'est une magnifique idée, parce que il y a d'autres compositeurs comme ça auxquels vous pensez que vous pourriez faire ressortir, ou alors je vous cueille à froid, Lucie Boulanger.
Ah non, mais c'est top secret encore.
D'accord.
Non, mais oui, malheureusement, ça manque pas du tout. Ce qui manque, c'est les occasions de le faire, c'est l'écoute qu'on peut avoir aussi, le fait d'être suivi dans ces choix-là, donc ce qu'Alpha a fait là, et avec courage.
Mais surtout qu'il y a deux disques en plus.
Il y a deux disques, oui, c'était pas prévu au départ.
C'est une nécessité, oui, mais je trouve que c'est une nécessité, parce que c'est une sorte de voyage, je le disais, vraiment envoûtant, et ça aurait été quand même très frustrant de n'en avoir qu'une partie. Surtout qu'il y a une cohérence dans ce voyage. Enfin, on sent qu'il y a un itinéraire que vous avez voulu et avec une nécessité.
Oui, je voulais passer par des univers... Enfin, chercher le maximum de variété, parce que le risque, enfin, l'écueil quand on joue le même instrument pendant une heure et demie, c'est quand même que ça sonne très monotone et toujours un peu pareil. Surtout que la viole étant en ré, 80% de notre répertoire est en ré. Donc il y avait cette difficulté quand même d'essayer de trancher, d'amener d'autres couleurs. D'où la volonté de faire alterner Bach et Abel. Et puis en effet d'avoir un aspect sonate, un aspect suite, d'avoir de la danse, d'avoir quelque chose de plus intellectuel avec des fugues. Donc voilà, en effet le projet de départ n'était pas de faire deux disques, mais l'acoustique de Noirlac m'a obligée à poser un peu plus mes tempos, à prendre le temps de laisser sonner les choses. Et puis voilà, j'avais pensé retirer des pièces au bout du compte pour faire rentrer coûte que coûte toute cette musique dans un seul disque, et puis je me suis dit que c'était dommage, voilà, de pas la laisser s'exprimer, de pas faire toutes les reprises, de Voilà.
Croyez bien en tout cas que c'est pas monotone et c'est presque. Alors votre disque, c'est complètement addictif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à écouter, faut abandonner l'idée de sortir de chez soi. Mais enfin, je pense qu'il y a un moment où il faut y retourner.
C'est aussi c'est pas du tout la manière dont j'écoute mes disques que je n'écoute pas. C'est-à-dire une fois qu'ils sont, une fois que c'est terminé.
Oui, mais
terminé,
je connais très peu d'artistes qui aimeraient écouter leurs disques.
Ah oui, c'est même une torture. Mais c'est la manière dont moi j'écoute de la musique quand j'écoute des disques. En effet, c'est absolument obsessionnel. En effet, cette idée de boucle.
Eh bien, en tout cas, merci infiniment pour ce magnifique double album, comme on dit à l'ancienne, Bach Abel, qui vient de paraître, Lucile Boulanger, pour le label Alpha Classique. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Ben, merci.